Vous écoutez France Culture.
Le journal, présenté par Soazic Bourg.
La fin d'un vrai faux suspense en Arabie Saoudite. Riyad cède aux pressions internationales. Oui, Jamal Khashoggi a bien été tué dans son consulat d'Istanbul, mais le pays n'a pas commandité l'assassinat. Le prince héritier tente de faire taire les critiques. Il a déjà limogé deux de ses proches. Les précisions à venir d'Omar Waman. Les élections législatives en Afghanistan, ouverture d'un scrutin sous très haute tension. Trois personnes sont mortes dans des explosions dans des bureaux de vote. On va sur place avec Sonia Ghezali. L'affaire Fillon en France et la défense des époux qui pourraient être affaiblis. Des mises en examen dans le dossier des emplois présumés fictifs s'engagent dans une procédure de plaidé coupable. Le détail avec Mathilde Lemaire dans ce journal. On s'intéressera aussi aux Pays-Bas et à cette nouvelle carte d'identité pour les personnes de sexe neutre. Un cas unique en Europe. Enfin, les mystères de Mercure pourraient bientôt être percés grâce à la sonde Bepi Colombo emmenée par la fusée Ariane 5. Elle est partie cette nuit de Kourou en Guyane. Enfin, la bulle éco cette semaine avec Catherine Pétillon. On parlera des géants du numérique avec cette question. Peut-on endiguer la domination d'Amazon? France Culture, midi 31. Les aveux de l'Arabie Saoudite, donc sous la pression internationale, Riyad a reconnu sa responsabilité dans la mort de Jamal Khashoggi. Le journaliste saoudien a disparu le 2 octobre dernier à l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Les autorités évoquent une bagarre qui aurait mal tourné, une version jugée crédible par Donald Trump. Un pas très important a été franchi, selon le président américain. De son côté, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, a écarté deux de ses proches collaborateurs. Omar Waman, bonjour.
Bonjour Soazic.
Alors, qui sont ces collaborateurs?
Alors, celui qui est au cœur de cette tempête provoquée par la mort de Jamal Khashoggi, c'est donc MBS, le prince héritier Mohammed bin Salman. Il est fortement soupçonné d'avoir commandité le meurtre du chroniqueur du Washington Post. Donc, pour tenter d'éteindre cet incendie, il a besoin de boucs émissaires, tout simplement. Les pressions internationales, et notamment celles de son allié américain, ont poussé le dauphin saoudien à se séparer de plusieurs de ses proches. Des proches collaborateurs, deux hommes qui faisaient partie de sa garde rapprochée. Le premier, il s'appelle Saoud Al-Khatani, c'était le conseiller média à la cour royale, et Ahmad Al-Assiri, chef adjoint du renseignement saoudien. Ces deux hommes ne faisaient rien sans l'aval de leur chef MBS. Pas sûr que cela suffise à éloigner l'ouragan.
Mais alors, Omar, finalement, l'avenir de MBS Mohammed bin Salman dépend de Washington.
Oui, c'est donc aux États-Unis que se joue véritablement l'avenir du dauphin saoudien. Tant que Donald Trump le soutiendra, sa mise à l'écart paraît vraiment peu probable. Le président américain a jugé la version, vous l'avez dit, saoudienne crédible, rien d'étonnant. Il avait privilégié la thèse de la bavure commise par des éléments incontrôlables. Il avait même plaidé la présomption d'innocence. L'objectif déclaré du président américain, c'est le statu quo dans le but de préserver les emplois dans l'industrie américaine, notamment dans le secteur de l'armement.
Mais alors, quand bien même l'accession au trône n'est pas garantie, hein, d'autres princes rivaux sont là. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, Omar Waman?
Alors, le père de MBS, c'est le roi Salman. Il est âgé de 82 ans, il est malade, il avait préparé sa succession, mais cette affaire a semé la panique au sein de la famille royale. Pour l'instant, le roi ne compte pas le destituer, mais il pourrait, à terme, on n'en est pas là, il pourrait se tourner vers son deuxième fils, Khaled bin Salman, 30 ans, frère cadet du prince. Khaled bin Salman, actuel ambassadeur à Washington, pourrait devenir vice-prince héritier avec, dans l'optique, un jour de succéder à son père.
Omar Waman pour France Culture, merci beaucoup. Des annonces saoudiennes qui ont été d'ailleurs saluées par le gouvernement des Émirats Arabes Unis, un proche allié de Riyad. Les élections législatives en Afghanistan, début d'un scrutin sous très haute tension et qui s'est ouvert dans le chaos ce matin. Trois personnes sont mortes lors d'explosions dans des bureaux de vote de la capitale. Les talibans ont appelé au boycott et à la violence de ces élections. Sur place, le reportage de Sonia Ghezali.
Les sirènes des ambulances ont résonné à plusieurs reprises depuis ce matin. Un médecin de l'hôpital Emergency à Kaboul écrivait à la mi-journée sur le réseau social Twitter qu'une trentaine de blessés avaient été reçus dans son établissement, ainsi qu'un bébé mort à son arrivée. Les autorités afghanes ne communiquent absolument pas sur ces explosions. Ce sont les habitants qui, par téléphone, par message envoyé sur les réseaux sociaux alertent sur les attaques. Il s'agit de bombes magnétiques dans la plupart des cas, indiquent des sources sécuritaires. En province, plusieurs incidents du même type sont rapportés par des témoins sur les réseaux sociaux. Les électeurs qui se rendent aux urnes font le déplacement en ayant conscience du danger. Les talibans ont encore envoyé très tôt ce matin un message d'avertissement. Tous les bureaux de vote seront attaqués, écrivent-ils dans un tweet. Ils ont prévenu depuis plusieurs semaines qu'ils feraient tout pour déstabiliser le processus électoral qu'ils considèrent illégitime. À cela s'ajoute la menace que représente l'organisation État islamique qui a revendiqué plusieurs attaques au cours de la campagne électorale. Ce climat de violence affectera sans aucun doute le taux de participation, d'autant plus que plusieurs bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir leurs portes ce matin. C'est ce qu'indique la commission électorale indépendante annonçant le report du scrutin à ces endroits, à demain, donc dimanche. Des électeurs qui font état d'appareils biométriques défaillants dans certains centres. Des difficultés qui ne surprendront pas les observateurs qui pointaient du doigt des élections organisées à la hâte.
Sonia Ghezali pour France Culture. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras salue une journée historique après le vote au Parlement macédonien en faveur du début du processus pour changer le nom du pays. À l'issue d'une semaine de débats et de tensions, le Premier ministre macédonien a su convaincre 80 députés. La Macédoine pourrait bien s'appeler République de Macédoine du Nord, une condition qui avait été imposée par la Grèce pour une intégration dans l'OTAN et l'Union européenne et approuvée en septembre lors d'un référendum. En Syrie, le groupe État islamique libère 6 des 27 otages de Souheida qu'il détient depuis fin juillet en échange de la libération de plusieurs prisonniers et en échange d'une rançon. Une vingtaine de femmes et d'enfants restent toujours aux mains des djihadistes. En France, près de 7 mois après les attentats de Trèbes et Carcassonne, 3 suspects membres de l'entourage du djihadiste ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ont été écroués. Le 23 mars dernier, Redouane Lagdim avait tué 4 personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Voilà qui pourrait affaiblir la défense des époux Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de Pénélope Fillon révélée il y a un an et demi en pleine campagne électorale de la présidentielle. Alors que les juges d'instruction ont bouclé leur enquête, on apprend de sources judiciaires qu'un des mis en examen dans ce dossier s'engage dans une procédure de plaidé coupable. Ça signifie qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Les explications de Mathilde Lemaire.
Les emplois supposés fictifs de Pénélope Fillon sont des emplois d'assistante parlementaire de son mari puis du suppléant de son mari. Mais l'enquête porte aussi sur un emploi de rédactrice conseillère littéraire à la revue des Deux Mondes. Et c'est précisément le propriétaire de cette revue, Marc Ladret de la Charrière, qui fait partie des 4 mises en examen dans ce dossier, qui s'engage dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cet homme d'affaires, un proche des époux Fillon qui plaide coupable, qui reconnaît l'abus de bien social qui lui est reproché, se a affaibli la défense du couple qui récuse depuis le début les accusations de détournement de fonds. Le patron de la revue des Deux Mondes avait salarié Madame Fillon 8 mois en 2013, 3 900 € mensuels. L'intéressée avait publié 2 notes de lecture et ne s'était jamais rendue dans les locaux de la revue. Aux enquêteurs, elle avait dit avoir trouvé son salaire généreux et avoir été déçue de ne pas être plus sollicitée. D'ici 3 mois, un juge doit homologuer ou non cette procédure de plaidé coupable. Dans ce même délai, le parquet financier doit lui donner son avis sur un éventuel procès des époux Fillon. La décision finale reviendra ensuite au juge d'instruction.
Il dénonçait une opération de police antiterroriste quelques jours après les perquisitions à son domicile et au siège de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué hier. Il demande l'annulation de ces perquisitions. Réponse immédiate de la procureure générale de Paris. Elle dénonce un coup de force du camp Mélenchon. Catherine Champrenault a justifié l'ampleur du dispositif. Il y avait plusieurs dizaines de policiers, ce qui est normal car il y avait une quinzaine de perquisitions. La France Insoumise est visée par 2 enquêtes. L'une porte sur les emplois d'assistants parlementaires présumés fictifs, l'autre sur les comptes de campagne. C'est une première aux Pays-Bas et en Europe. Aujourd'hui, une personne de nationalité néerlandaise n'est désormais plus une femme ni un homme, mais une personne de sexe neutre, reconnaissable grâce à un X sur sa carte d'identité. Aujourd'hui, cette possibilité existe déjà dans la loi maltaise et c'est aussi autorisé au Canada et en Australie, mais aux Pays-Bas, c'est pour l'instant un cas unique. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Leon Zegers a reçu la première carte d'identité néerlandaise avec un X en face de geslacht, c'est-à-dire sexe, pour remplacer le V pour sexe féminin, qui y figurait auparavant. C'est la deuxième fois qu'elle change. À sa naissance, elle avait été déclarée de sexe masculin, malgré l'impossibilité médicale de déterminer si ses organes sexuels étaient féminins ou masculins. Après des interventions chirurgicales en 2001, elle avait pu faire remplacer le M masculin qu'elle avait depuis toujours et féminiser son prénom de naissance, Léon. Mais elle n'était toujours pas satisfaite par son état. Après 2 ans de procédure, le tribunal de Ruremonde, dans la province de Limbourg, avait décidé fin mai que son acte de naissance pouvait porter comme mention « le sexe de l'enfant n'a pu être déterminé ». Léon a donc reçu fin août son nouvel acte de naissance et désormais aussi sa carte d'identité. C'est pour l'instant uniquement l'application du jugement prononcé en mai dans son cas spécifique. Et le gouvernement néerlandais va maintenant devoir faire modifier la loi. L'accord de gouvernement de la coalition actuellement au pouvoir contient justement un engagement à supprimer la mention des sexes, là où c'est inutile. Mais il va falloir aller beaucoup plus loin pour se conformer à la décision du tribunal de Ruremonde.
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Culture. C'est parti pour un voyage de 7 ans vers la plus petite planète du système solaire. La fusée Ariane 5 a décollé cette nuit de Kourou en Guyane avec à son bord la sonde Bepi Colombo pour aller explorer Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Vous écoutez France Culture, il est midi 40. La bulle écho tout de suite avec Catherine Pétillon. Cette semaine, il est question des géants du numérique. Avec cette question, peut-on endiguer la domination d'Amazon?
La bulle économique.
Les discussions, ça suffit. Les palabres, ça suffit. Les prétextes, ça suffit. Je veux un accord et surtout, je veux une décision. Ce n'est qu'une question de volonté politique, la taxation des géants du numérique.
Bruno Le Maire espère bien obtenir la semaine prochaine un accord de principe sur la taxation des géants du numérique comme Amazon. Comme d'autres avant lui, le ministre de l'économie en a fait un cheval de bataille, mais accorder les États européens s'avère incroyablement laborieux et difficile. Et pourtant, on ne parle là que d'une petite partie des questions que pose Amazon. Il est assez difficile de se représenter à quel point l'entreprise de Jeff Bezos est désormais tentaculaire. Amazon est bien sûr une incontournable plateforme d'e-commerce. Elle capte la moitié des achats en ligne de leur plus grande variété, jouets, livres, vêtements, etc. Aux États-Unis, un ménage sur deux est abonné à Prime, son programme payant de livraison rapide, et tout cela fonctionne grâce à un gigantesque réseau logistique, des milliers d'entrepôts et une main-d'œuvre sous-payée. Cela fait longtemps qu'Amazon ne se contente plus d'être une place de marché. Elle produit des séries, sera bientôt présente dans les voitures, les horloges ou les micro-ondes. L'entreprise a présenté en septembre de nouveaux objets connectés, dotés de son système Echo. Or, à mesure que s'impose la domination d'Amazon, éclate l'impuissance des concurrents comme des États à faire face au pouvoir pris par un acteur privé. Alors bien sûr, l'Europe utilise tout l'arsenal juridique et politique à sa disposition. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a annoncé il y a quelques jours son intention d'ouvrir une enquête préliminaire pour déterminer si Amazon utilise les données de commerçants présents sur son site afin de favoriser ses propres ventes. Mais si les amendes déjà imposées, comme à Google, font office de première réaction, elles n'ont pas fondamentalement changé la donne. Et de ce point de vue, les réponses actuelles en termes de fiscalité ou de droit de la concurrence s'avèrent sans portée. Aux États-Unis, les lois antitrust, des règles édictées à un autre siècle avec d'autres types d'acteurs, sont dans l'incapacité de prendre en considération ce qui fait la force d'Amazon, à savoir un modèle complet et inédit. Ce qui fait l'assise de cette puissance nouvelle, ce sont les données. À deux niveaux. D'abord, via AWS, Amazon Web Service, l'entreprise est l'un des principaux, si ce n'est le premier acteur de stockage de données. Aussi bien celle de Netflix que demain peut-être celle du Pentagone, on a appris cette semaine qu'AWS semble bien parti pour remporter l'appel d'offres de l'armée américaine pour son futur cloud unique. L'entreprise stocke déjà un tiers des données, pas uniquement américaines, mais bien du monde entier, comme par exemple celle de médias français ou encore celle des évaluations scolaires de l'éducation nationale. À cela s'ajoute sur un autre plan toute la collecte de données glanées cette fois sur les utilisateurs des services d'Amazon, que ce soit leurs habitudes d'achat ou leurs pratiques quotidiennes via l'assistant vocal Alexa et tous les objets qui lui sont connectés. Voilà qui constitue une connaissance vertigineuse des populations. Si c'est par le biais du numérique qu'il s'est développé, le pouvoir d'Amazon est aujourd'hui bien loin d'être seulement numérique. Désormais, c'est un nouvel objet économique à penser et un projet politique à regarder. Pour désigner ce qui se joue là, un chercheur américain, Frank Pasquale, a développé la notion de souveraineté fonctionnelle par opposition à la souveraineté territoriale d'un État. Ce que souligne ce professeur en droit de l'Université du Maryland, c'est comment Amazon a dépassé une fonction économique pour peu à peu obtenir des pouvoirs traditionnellement dévolus à l'État. Amazon n'est plus seulement un géant du numérique, mais une infrastructure essentielle à de nombreuses entreprises qui désormais en dépendent. L'entreprise s'est arrogée de fait un rôle de régulateur et c'est désormais à cela que les États doivent répondre.
Le temps de ce samedi, une belle journée ensoleillée nous attend sur le relief corse. Les nuages pourront néanmoins donner une petite ondée. Les minimales entre 6 et 11 degrés au nord, 10 à 14 au sud-ouest. Et cet après-midi, il fera entre 17 et 26 degrés. Ce journal a été réalisé par Emmanuel Faucillon avec à la technique Jacques Hubert.